je sais plus combien on a de conférences après sur le même thème, je crois que c'est 7 ou 8.
9,
je sais plus. Peut-être même 9, vous voyez, donc c'est vraiment un thème qu'on va prendre le temps de déployer pendant ce long premier trimestre. Voilà. Alors, j'entre un peu dans le vif du sujet, sachant que j'ai deux grosses demi-heures.
Oui, c'est ça. 45 minutes. Oui.
Combien ?
Oui, une grosse demi-heure. Très bien. 45 minutes,
soit
40 minutes.
Ah oui, ok, bon, ça va. De toute façon, moi, en général, mon problème, c'est rarement de parler trop peu. voilà, alors, l'idée, c'est un peu, ce théologien, donc, il part d'abord, pour nous introduire à la question de la liberté, il part de deux modèles initiaux. On va dire un modèle qui correspond à une certaine plénitude, et un modèle qui correspond à un certain devenir, à la liberté beaucoup plus comme projet. Donc vous avez deux citations qui vont dire un peu ces deux modèles. Le premier, hein, c'est quand on dit que la source de la liberté, c'est ce que l'être est déjà. C'est-à-dire qu'au fond, la liberté, et c'est pour ça que cette petite conférence s'appelle un don et une conquête, si je peux être libre, c'est parce que dès le départ, je sens qu'il y a en moi quelque chose de la liberté, quelque chose de ma capacité à me déterminer moi-même. Et donc à actualiser les potentialités que j'ai en moi, et donc de pouvoir en fait les déployer vers leur perfection. Hein. Donc la liberté est la perfection qu'un être peut se donner en vertu, et si je commence à tout cacher, ça va pas, en vertu de son énergie propre. Hein. Énergie, là, c'est au sens de energeia en grec. Hein. Il y a la puissance et l'energeia, donc la puissance est l'acte en réalité. Hein, donc c'est-à-dire qu'on a un certain nombre, une potentialité de liberté en nous, qui est déjà existante, et l'idée c'est qu'on puisse l'actualiser. Hein. Bon, par exemple, ça paraît très, très simple, mais pour quelqu'un qui a un certain nombre de capacités en lui au point de départ, ça va être tout simplement de pouvoir réussir à les déployer davantage, mais en sachant qu'elles pouvaient déjà être là. Un des exemples que je vais prendre de manière un peu continue, on pourrait dire que quelqu'un, il a un certain don pour la musique. Bon, il y a cette capacité, mais en fait, qui peut être en toute personne. Elle n'est pas toujours égale chez les personnes, mais on va pouvoir actualiser hein, ce don conformément à ce que nous sommes. Hein. Donc ça va partir d'un don premier pour ensuite atteindre sa perfection. L'autre, et donc là, si vous voulez, on va être dans un modèle qui est plus inspiré par Aristote, hein, donc par la philosophie antique, mais aussi, au fond, dans certains aspects, par Platon, puisqu'on va considérer que l'être humain est conforme à une certaine nature et qui va suivre sa nature, donc pas au sens la nature, hein, pas au sens biologique, mais au sens où une nature humaine, c'est qu'il y a des caractéristiques de l'être humain qui vont lui permettre de déployer sa liberté dans un certain sens, de l'actualiser. L'autre modèle, il est qu'au fond, plutôt de partir du fait que je ne me sens pas si libre que ça au point de départ. Et qu'en fait, la liberté, elle est beaucoup plus devant moi qu'au point de départ. Hein, si je reprends l'exemple de la musique, que je continuerai de prendre pendant toute la conférence, bah, je peux toujours avoir un don pour la musique, n'empêche que jouer comme un virtuose, c'est bien davantage devant moi qu'un donné immédiat. Et donc, la liberté, le terme de la liberté, dans cette conception de la liberté, c'est le terme de la liberté qui est vraiment humain, pas le point de départ. Hein, et on peut se dire, ben, au début, nous naissons, nous commençons, nous les êtres humains, beaucoup plus comme des mammifères, de simples mammifères, que comme les humains que nous sommes. Donc en fond, l'humanité, on peut se dire, elle est d'abord devant moi, et ma liberté, elle va être l'objet, à partir de là, d'une conquête. Elle est la puissance du négatif au pouvoir de l'homme. Hein, c'est-à-dire, au fond, je dois me conquérir par rapport à un certain nombre de choses qui sont beaucoup plus des obstacles au déploiement de ma liberté. Là, si vous voulez, alors j'y vais vraiment à la serpe, hein, je vous ai prévenu que c'était « oui, oui, fait de la philosophie », ou « la philosophie pour les Playmobil ». Vous voyez, là, on est un petit peu plus avec un Hegel, avec un Marx ou avec un Sartre. Hein, c'est-à-dire, au fond, je suis dans une sorte de liberté qui a une forme d'indétermination, mais au fond, je vais devenir ce que je suis, ce que je forge de moi-même. Donc à partir de là, ma liberté, elle est beaucoup plus devant moi que au point de départ. Donc vous voyez, c'est une espèce de deux tendances initiales, hein, mais qui ont en commun qu'on peut dire qu'au fond, dans les deux cas, la liberté, elle est autodétermination de soi par soi. Soit au fond parce que je vais activer des choses qui étaient déjà en moi, et c'est en fait, on pourrait dire, une facette de la liberté, soit parce que je vais chercher à conquérir des choses que dont je n'étais pas capable, que je n'avais pas, et que je vais réussir à conquérir, si je puis dire, soit en le conquérant sur le milieu, ou sur moi-même, en déployant mes capacités. Et donc, en fait, cette autodétermination de soi par soi, le curseur, il est toujours dans le fait que qu'il y a une sorte de spontanéité de la liberté, j'y reviendrai, mais on peut dire au fond que celui qui peut décider de lui-même ce qu'il est de manière absolue, hein, qui est le seul qui s'autodétermine totalement lui-même, au fond, c'est Dieu. Hein. Nous, ben, il y aura toujours cette dimension de conquête, parce qu'en fait, nous naissons dans des déterminations que nous pouvons vivre comme des choses que nous subissons bien davantage que nous ne les maîtrisons. Hein. C'est-à-dire Dieu, il est intégralement libre, hein, de faire ce qu'il est, d'être ce qu'il est. Il est, au fond, profondément liberté. Nous, eh bien, la liberté, on se rend compte d'abord que c'est un travail. Hein. Et comme souvent, c'est cette dimension de travail que nous expérimentons, je vais inverser un peu le titre de la conférence, je vous avais dit un don et une conquête. On reviendra au don, parce qu'en fait, on se rendra compte qu'il est quand même premier. Mais on va commencer par cette dimension, au fond, de conquête, qui sera beaucoup plus marquante dans mon propos. Donc pour un petit peu maintenant caractériser, vous voyez, il y avait deux tendances. Hein. Il y avait une tendance où, quelque part, il y a un donné de la liberté. Si je peux être libre, c'est parce que dès le départ, en fait, j'ai une capacité à faire des choix, à tendre vers différentes choses. Et puis il y avait cette dimension de manque. Hein. Donc un côté de surcroît initial et un côté de manque où la liberté est un peu au terme de ce que je peux atteindre. Ça va ? C'est à peu près clair jusqu'ici ? Très bien. Là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déployer ça, mais en enrichissant un tout petit peu ce qu'on appelle liberté. Parce que spontanément, quand on parle aux gens d'être libre, alors évidemment, là, je parle à des talards, donc vous avez déjà une conception assez élaborée de la liberté en réalité, mais c'est pas grave. Je fais comme si j'avais aussi des oui-oui en face de moi. Quand je parle de la liberté, notamment à des gens un petit peu de manière... en mode, si nous étions à un comptoir de café, on va dire la liberté, c'est d'avoir le choix, d'avoir plein de choix différents, plein de potentialités différentes. Et au fond, c'est vrai. Hein, la liberté, il y a quelque chose qui est déjà dans l'ordre du choix. Et au fond, ce choix, il ne va s'exercer que parce que d'abord, mon intention se porte vers un bien. Hein, et donc à partir de là, si vous voulez, on va décliner la liberté en quatre temps. D'abord, le moment de l'intention. Je porte ma volonté vers un objet. Je le choisis parmi d'autres. Hein. Donc pourquoi ? Parce que j'y reconnais un certain bien. Donc l'intention, elle est de mon côté. Hein. Je porte mon intention vers quelque chose. Mais au fond, il y a toujours un autre pôle à la liberté. C'est que ce vers quoi je me porte, c'est parce que je considère que j'ai un bien en face de moi. Sinon, j'irai pas. D'ailleurs, le grand problème de notre existence, hein, c'est que il faut, la liberté, ça devrait être de se porter naturellement vers le bien, mais en fait, on est très brouillé. Donc, on est capable de regarder les choses qui sont en fait mauvaises comme des biens et de tendre vers elles sans les avoir bien identifiées. Donc, ça, c'est une question qui est moins philosophique, c'est celle de la question du péché. Mais, si vous voulez, ça fait qu'on peut avoir une liberté un peu brouillée. Néanmoins, même si je vise un mal, quelque chose qui, objectivement, pourrait-on dire, est un mal, en général, si je le vise, c'est parce que subjectivement, j'y vois un bien. Hein ? Donc, mon intention va se porter vers un objet, mais au fond, l'objet lui-même exerce une attraction sur moi. Là, j'introduis peut-être le deuxième exemple que je peux donner de manière un peu récurrente. Dans l'attraction, dans l'intention de quelqu'un qui va aller se porter vers une autre personne, notamment l'attraction amoureuse, il va y avoir à la fois une intention du côté du sujet, mais évidemment, c'est parce qu'il y a une attraction de la personne que j'ai en face de moi. Ah, donc, l'intention, elle est déjà mue par une forme d'altérité en face. À partir du moment où je porte mon intention vers quelque chose, je vais porter un choix, cette fois-ci non pas sur l'objet lui-même, mais sur la manière de le rejoindre. Ou plus exactement, on pourrait dire, à partir du moment où je porte mon intention vers tel ou tel objet, c'est le fait même de choisir ça, ça va impliquer un certain nombre de médiations, c'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir employer tous les chemins. Là, par exemple, si je prends mon exemple de la musique, j'entends des gens qui font de la musique, je trouve ça génial, je suis attiré par le bien qu'est la musique, hein, donc j'ai envie de faire de la musique, bon, très bien, Mais vous voyez bien que si je décide de faire de la guitare électrique ou de la flûte traversière, déjà, je ne vais pas, a priori, il y a des cas rares qui sont capables d'être virtuoses dans des tas de domaines, mais a priori, vous voyez, je vais déjà limiter mon champ d'action dans le monde. C'est-à-dire que je vais adopter une médiation particulière en vue de mon but, qui est de prendre une flûte, je vais aller m'acheter ma flûte Yamaha, c'est ce que j'ai fait il y a bien longtemps. Je ne fais pas de pub, c'est juste du réel. Et donc je n'ai pas choisi la guitare électrique. Je pense que vous êtes très déçus, sinon vous le sauriez déjà de toute façon. Mais ça veut dire qu'à partir de là, vous voyez, j'ai en quelque sorte déjà limité le champ des possibles. J'ai limité le champ des possibles, mais vous voyez ce qui est intéressant, c'est que tandis que les possibles étaient des possibles irréels, c'est-à-dire qu'ils étaient virtuels, c'était des possibilités de faire quelque chose, j'ai limité mon champ, mais je l'ai rendu plus réel. C'est-à-dire que j'ai quand même une vraie flûte entre les mains et j'ai décidé que je voulais en jouer. Deuxième temps de la liberté. Troisième temps de la liberté, c'est pour ça que je parle d'une médiation réelle. Troisième temps de la liberté, ça va être celui qu'on va appeler le temps de la maîtrise. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que j'ai ma flûte dans les mains, il va falloir en jouer. Et il va falloir surtout réussir à apprendre. Donc ça veut dire que je vais faire des gammes. Et quand on fait des gammes, il faut beaucoup de fidélité. Et c'est ressenti très fort comme une servitude. Vous voyez, donc il y a un moment où en fait les moyens qu'on a choisis, il va falloir pouvoir durer dans le moyen qu'on a choisi pour qu'ensuite ils me conduisent à ce qu'on va appeler ce quatrième temps de la liberté, qu'on peut appeler l'usage, que Thomas d'Aquin va appeler la fruitio, c'est-à-dire une certaine jouissance de la liberté qui entre en possession d'elle-même, j'y reviendrai, et qui donc, en fait, accomplit quelque chose à travers ce qu'elle a fait. Donc, là, si je reprends mon exemple de la musique, après avoir fait beaucoup de gammes, je suis enfin capable de jouer mon premier mouvement, certes lent, d'un concerto de Mozart, je peux encore jouer des mouvements rapides, mais déjà, vous voyez, j'ai atteint une certaine capacité, ma liberté est passée à un autre stade. Si je reprends l'exemple de l'attraction amoureuse, ou plutôt de deux êtres qui s'aiment, ils ont choisi, par exemple, je sais pas, ils choisissent à partir de là de se marier, de se dire un oui qui est pour toujours, pour ça, ils vont faire une préparation au mariage qui va leur prendre quelques mois, ils vont se retrouver avec les familles qui vont se disputer sur la couleur du fur-part, ça c'est que du vécu. Et puis à la fin, il va y avoir le mariage lui-même qui est une journée formidable, une journée de fruitio. Mais vous voyez bien que cette journée du mariage, en fait, elle va être que le début d'un nouveau cycle, d'une liberté qui sera toujours prise dans ces différents moments et qui va continuer à agir ainsi de moment en moment pour être vraiment elle-même. Et donc, là je cite Albert Chapelle, « Tant qu'elle reste comme en Genèse dans cet itinéraire, la liberté est toujours en manque d'elle-même. » La distance entre le point de départ de la liberté, son intention et son accomplissement dans la joie de la fin rejointe caractérise la genèse de l'acte libre. C'est-à-dire qu'au fond, dans ce mouvement de la liberté qui vient en fait se conquérir elle-même à partir, vous voyez, d'une sorte de don premier, mais sur lequel j'insiste peut-être pas tout de suite pour le moment, vous voyez bien qu'on est en train de conquérir quelque chose qu'on n'a pas. Donc du coup, la liberté est pourrait-on dire en manque d'elle-même, en attente de soi-même. Et donc, elle va quand même se vivre sur le mode d'un certain vide. Le déploiement de la liberté, ce n'est pas toujours l'extase, si je puis dire. Vous voyez, je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'on rêve d'une liberté qui aurait tous les possibles. On rêve d'une liberté qui aurait tous les possibles, parce qu'en fait, on est toujours dans le domaine du rêve. Pouvoir tout. Avoir tout pouvoir, tout. Et en fait, c'est parce qu'on n'est pas entré dans le réel des choses. Dès qu'on entre dans le réel, dès que la liberté se fait réelle, en fait, elle se fait aussi très souvent coûteuse dans son déploiement. Donc elle vit cette dimension de manque, et au fond, elle va devoir se conquérir au fur et à mesure. Et donc, au fond, on peut dire qu'on pourrait redire cette autodétermination de soi par soi comme un accès à ce qu'on n'est pas. j'accède au fond à ce que je n'étais pas. Et donc, je le redis encore avec d'autres mots, ça veut dire que l'acte libre, il est en quelque sorte transi de finitude. Si j'étais une liberté infinie, je pourrais vouloir tous les possibles et tous les réaliser, dans une certaine mesure. Mais ma liberté est finie. Elle s'inscrit dans un certain cadre, dans un certain contexte. Et donc, ça veut dire qu'au départ, elle se vit sur le mode d'un certain manque. Et au terme, jusqu'ici, j'ai parlé de la réussite, enfin, d'une réussite déjà relative dans mon cas, parce qu'il y a de la fuite traversière. Mais vous voyez que ça peut aboutir à l'échec. Hein. Et dans mon cas, ça a aussi beaucoup abouti à l'échec. Vous voyez, c'est-à-dire que je me suis fait une raison, ça m'a pris un petit peu de temps, mais je ne serai pas virtuose à la fuite traversière, ça fait, c'est pas ma grâce, voilà, ça n'est pas partie de ça. C'est, voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez, je suis parti de ce que je n'étais pas, j'ai cherché à accéder à ce que je ne suis pas, et puis à la fin, moi, je fais l'expérience, pour une part, bah, que je ne suis toujours pas ce que j'espérais être. Vous voyez ? Et ça, c'est une des données aussi de la liberté. Hein ? C'est-à-dire qu'elle peut se vivre sur le mode de la réussite, une véritable fruitio. Ça, c'est les jeunes époux, quand ils vivent leur journée de mariage, qui ensuite sera le début de beaucoup d'actes libres pour continuer, en fait, de répondre à ce oui qu'ils se sont donné. Hein ? Mais vous voyez bien que, pour une part aussi, il y a quelque chose de cet accès qui peut toujours avoir un côté insatisfaisant. Et je crois qu'il y a, là, on rejoint, je vous ai mis une citation sur le vouloir nihiliste, hein, mais en fait, c'est un petit peu qu'on se rend compte que la liberté, c'est je veux accéder à ce que je ne suis pas, mais au fond, voilà, je suis parti de ce que je n'étais pas, et même si je réussis, je pourrais toujours très bien me dire qu'au fond, c'est pas encore ça. Et d'ailleurs, les très grands musiciens, ils vont toujours se dire qu'en fait, c'est pas assez. Si je prends un autre exemple qui me marque beaucoup, c'est les alpinistes. Hein. Grimper par la face... alors, c'est vrai, j'ai fait une face nord, mais je ne l'ai pas faite en hivernal. Donc, il faut maintenant que je la fasse en hivernal. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'alpinistes qui meurent à la fin. Hein. Pour bien le dire. Non, mais voilà. Parce que, en fait, c'est pas si simple, en fait, de réussir, en fait, d'entrer dans ce mouvement de la liberté. Il y a toujours, en fait, un aspect de manque, il y a toujours quelque chose que je pourrais remettre en cause. Et je crois que cet aspect-là est très intéressant parce qu'en fait, il me semble, alors là je fais un diagnostic et plus un diagnostic spirituel sur notre temps, mais il me semble que une des sources de l'insatisfaction de notre époque, elle est beaucoup qu'elle vit cette liberté très fortement, hein, sur le mode du manque, donc très forcément influencée au fond, hein, par une philosophie lointainement hegelienne. Hein, au départ, ce qui est un peu trompeur, c'est qu'au départ Hegel, en fait, il n'est pas philosophe. Hein. Hegel, c'est un théologien protestant, hein, qui enseigne la théologie. Et il a, au départ, considéré qu'il déployait une interprétation de la Trinité. Le problème d'Hegel, c'est qu'il va, et j'y reviendrai parce que c'est un thème important, hein, il va penser Dieu comme si Dieu devait, au fond, advenir à lui-même en se conquérant lui-même par le passage, par un certain travail du négatif. Hein, c'est pour ça qu'on a parlé de puissance du négatif tout à l'heure. Hein, et qu'au fond, le repos de Dieu était beaucoup plus devant lui qu'au départ. Alors c'est très intéressant philosophiquement, mais c'est plus trop chrétien, en fait. Parce que la Trinité, elle ne se pense pas sur le mode du manque. Mais au fond, nous, on est un peu héritier de ça, et on est un peu héritier, alors, vous voyez, chez Sartre, pour le dire un peu différemment, il y a sûrement des grands spécialistes de Sartre, donc c'est pas grave, oui, continuez de marcher sur l'eau. Il y a quelque chose chez lui, vous voyez, à la fois de dire « je suis absolument libre » et en même temps, comme je suis totalement indéterminé, il y a quelque chose, vous voyez, chez Sartre, de ce manque interne qui va permettre, en fait, cette espèce de fuite en avant de la liberté. Et je pense quand même que dans notre société, il y a beaucoup de choses qui sont liées à ça, vous voyez. Voilà, on a beaucoup parlé du gender, on a beaucoup dit « alors le gender, c'est très bien ». Bon, et puis après, on caricature bien un certain nombre des intuitions qui sont au départ. Pour qu'une théorie ait du succès, il faut toujours qu'on se dise qu'en fait, elle repose sur une part de vérité. Sinon, elle n'aurait pas de succès. Les gens n'y adhéreraient pas. La vérité du gender, hein, c'est que devenir homme et devenir femme, à la fois on part d'un donné, mais c'est toujours aussi un travail, et c'est un travail pas si facile de devenir un homme masculin, bien dans ses rapports avec les autres, une femme féminine avec ce qu'il y a dans le... Vous voyez, et quand je dis ça, mon but n'est pas d'essentialiser le masculin ou le féminin, mais c'est de dire, au fond, ce travail, il existe et il n'est pas hors de tout donner. Mais ce que va faire le gender, c'est en tout cas un certain gender caricaturé, qu'ensuite on nous a envoyé un petit peu en... Et qui a un impact, hein, puisque aujourd'hui, quand même, les parents ne peuvent pas s'opposer à la transition de leur enfant. C'est-à-dire qu'on a quelque chose là qui paraît assez complexe, mais en tout cas qui fait partie des enjeux de notre temps. C'est, le risque, c'est un peu ces fuites en avant sur qui suis-je ? Est-ce que je ne suis pas le moment d'après ? Vous voyez ? Et donc, ça je dis ça donc, sur la question du gender, mais parce que, vous voyez, le risque après, c'est que nous, on réagisse en disant « Ah, gender, claque, caricature, donc c'est mal, donc nous, en réponse, on va dire que l'homme et la femme, bah, c'est bien biologique et qu'il suffit que ce soit évident. » Mais la Bible ne dit pas ça. La Bible, elle dit que l'humanité, elle est créée homme et femme à égalité, que c'est une seule humanité, donc Adam et Zahra Menekeva, dit le premier récit de la création, c'est-à-dire mâle et femelle. Le premier récit, il pose la question de l'altérité, de la différence mâle-femelle. Puis dans le deuxième récit, il va nommer l'homme et la femme comme Ish et Isha. En hébreu, ça veut dire l'homme comme masculin, la femme comme féminine. Vous voyez, mais ici, il y a ces deux récits qui mettent ces deux réalités. C'est parce que pour passer de Zahar à Ish, ou de Nekeva à Isha, ben, il y a aussi ce travail-là. Et donc la Bible n'est pas simplement biologiste non plus. Donc si vous voulez, les points d'accroche hein, de quelque chose qui peut partir en confetti, c'est parce qu'il y a aussi il y a aussi une vérité derrière ça dont il faut réussir à accueillir la part de pertinence pour qu'ensuite on puisse aussi en fait pour le coup recueillir et aider nos contemporains en fait à entrer dans une conception davantage pleine de la liberté. Donc j'insiste sur ce manque parce que au fond ce manque, il est aussi, c'est peut-être aussi, si je vais là un peu chez Marx, une part de vérité de ce qu'il dit, un certain accès à de l'humanité se fait aussi contre le milieu, se fait aussi dans une conquête par rapport à un manque, par rapport à ce que nous étions là. Donc il y a quelque chose qui n'est pas faux, simplement, à partir du moment où on ne pense que le manque, eh bien, même les réussites pourront toujours être pensées comme quelque chose qui n'est pas encore un lieu de repos pour la liberté. Ça veut dire qu'au fond, je suis dans une fuite permanente vers un plus loin que je n'aurais jamais atteint. Et c'est ça que Albert Chappell, c'est là qu'Albert Chappell va parler du vouloir nihiliste. Il dit dans le vouloir nihiliste, tout se fonde dans le manque et tout vise la réaffirmation définitive de cette pénurie originelle. C'est-à-dire au fond, j'étais une détermination première et il fallait que je me conquière moi-même, mais au fond, je ne me suis toujours pas conquis. Et alors là, c'est pareil, hein, je me sens très petit en vous parlant, mais vous voyez, chez Nietzsche, une des choses qui m'a beaucoup frappé, parce que donc, au Bernardin, j'anime de temps en temps un séminaire qui s'appelle Athéisme, où on étudie en fait les pensées athées. Donc les séminaristes, on leur fait travailler aux futurs prêtres toutes les différentes pensées qui nient Dieu. Hein, voilà. Et ce qui m'a beaucoup frappé chez Nietzsche, c'est le moment un peu ultime où l'affirmation en fait du surhomme, c'est il y a quelque chose d'une parole inaugurale qui envers et contre tout va dire ce qu'elle est, hein, comme une sorte de chose qui va au fond s'imposer. Et souvent je me disais en lisant Nietzsche, mais quel est son rapport avec le corps ? Et alors, bon, ça devait être l'édition du deuxième séminaire, mais je n'ai pas pu y participer finalement, après avoir imposé à tout le monde qu'il fallait qu'on réfléchisse à la question de la réponse du lieu du corps par rapport à la question de la technique. Bon, vous voyez, c'est très... Mais pour dire, vous voyez, en tout cas, on va toujours... Le risque, c'est toujours d'aller d'un manque au manque suivant. Et c'est là que Albert Chappell dit, mais non, en fait, la liberté... Alors, je vous l'avais déjà fait pressentir dès le départ... La liberté, en fait, elle est immanente à chaque moment de l'acte libre. En fait, la liberté, elle est comme une source en nous, hein, qui est la possibilité, en fait, de nous donner. C'est-à-dire, en quelque sorte, oui, de nous jeter nous-mêmes dans le monde vers des biens, voilà, de chercher à les atteindre. Mais parce qu'au fond, cette possibilité de se lancer nous est donnée dès le départ. L'intention de départ, c'est pas que je me porte juste vers un bien qui serait seulement de l'autre côté et qu'il me faudrait conquérir. Au fond, l'intention, elle est déjà spontanéité de la liberté. Elle est déjà jaillissement. Sinon, si je n'avais pas cette liberté dès le départ, je ne pourrais même pas identifier le manque. Je ne pourrais même pas partir vers quelque chose de plus. Donc ça veut dire que la liberté, elle est à chaque moment. Donc d'abord, elle est dans l'intention. Ensuite, elle est dans le choix. Parce que même si je dois choisir des médiations réelles et qu'en quelque sorte, je vais forcément limiter à ce moment-là le champ dans lequel va se déployer ma liberté, c'est-à-dire voilà, je ne peux pas jouer d'une main de la guitare électrique, de l'autre de la flûte traversière, mais j'ai quand même ce libre arbitre qui me permet en fait de faire ce choix réel entre l'un et l'autre. Donc oui, il y a des conditions finies hein, de l'exercice de ma liberté, et ça, si je ne l'accepte pas, finalement, je serai toujours dans une fuite éperdue. Mais même quand j'ai intégré les conditions de finitude de ma liberté, au fond, elles demeurent dans ce choix que je fais de telle ou telle médiation pour parvenir à mon but. Et quand il y a la notion de la maîtrise, hein, donc je vous ai parlé de faire des gammes, je pense que vous voyez, ça, c'est un des lieux majeurs où dans notre époque, en fait, je pense que notre époque oublie de manière fréquente les deux moments majeurs de la liberté. Elle pense beaucoup à l'intention, au bien vers lequel je me porte, et elle pense beaucoup au choix que je fais pour aller vers ce bien. Mais elle pense peu, elle reconnaît peu comme part entière de la liberté, la servitude, la fidélité, hein, mais en fait le dominus sui actus, c'est-à-dire être maître de son propre acte, c'est-à-dire l'exercice de cette liberté dans la durée que je vais mettre en œuvre. Et au fond, quand je suis en train de faire des gammes, certes, je peux le vivre comme une forme d'esclavage, mais en fait, je reste libre, et c'est même dans ce moment crucial de ma liberté que je suis en train d'en repousser les limites. Donc la liberté peut être vécue, on pourrait dire subjectivement, comme absence de liberté, comme difficulté, comme réduction des possibles, et pourtant, en fait, elle est approfondissement de ma liberté. Si je reviens à mes deux tourtereaux, après quelques années de mariage, eh bien, ils s'aperçoivent qu'ils ont choisi une médiation réelle pour aller vers le Seigneur. Le chemin de Gertrude, c'est je ne sais pas, trouvez-moi un prénom. On va l'appeler Robert. Il n'y a pas de Robert ici. Voilà, c'est Robert. Et le chemin de Robert, c'est Gertrude. Et bah, dans la durée, même si saint Augustin dit, voilà, au début il disait, aimer c'est toujours aimer un autre. Hein, et au début on aime aimer, comme dit Augustin, j'aimais être amoureux. Et puis après, avec le temps, on se rend compte qu'on aime un autre. Et là ça peut devenir vraiment passionnant, mais ça devient aussi parfois plus aride, vous voyez. Et vous voyez, ça c'est vraiment un lieu très important aussi, parce que dans la vie des couples, ce moment-là où je peux me dire, mais ça y est, je suis pris dans cette relation, j'aurais pu... J'ai choisi Gertrude alors que Cunégonde est bon. Et ben en fait, voilà, là il y a un lieu. Si vous voulez, on peut vivre notre vie en extension, ou on peut la vivre en allant vers la profondeur d'une relation. Et donc, ce temps de la liberté, ce temps de la maîtrise, qui est aussi un temps du réel de la liberté, qui est un temps aussi de la pauvreté, hein, parce que c'est un temps où particulièrement nous allons expérimenter la finitude de notre liberté. En fait, la finitude de notre liberté, on l'expérimente beaucoup plus dans ce temps-là que dans le moment où, en fait, on a une intention et où on fait le premier choix d'aller choisir une flûte parce qu'il n'y avait pas de cours de flûte avec. C'était mon cas. Il y avait des déterminations au départ. Vous voyez, donc, mais une fois qu'on y est, c'est pourtant là que les choses se jouent. Et le dernier moment, hein, qu'on peut appeler donc, la reditio completa ad se ipsum, c'est-à-dire le retour complet à soi-même, c'est-à-dire qu'au fond, j'ai intégré cette chose qui m'était si extérieure, et elle fait désormais partie de ce que je suis. Alors, je vais prendre un exemple où je ne suis pas non plus expert, mais néanmoins, c'est pour le coup, c'est très très universel. Hein, j'ai passé mon permis de conduire, bon, et ben, je n'ai plus tout le temps à me demander si je suis en train de passer la troisième, non, je suis en train, vous voyez, je fais... Le corps, et c'est très intéressant parce qu'un des lieux de l'intégration de la liberté, c'est le corps. J'ai intégré ça à ce que je suis. J'ai intégré, au fond, cette dimension qui m'a, au fil des calages, m'a semblé si difficile. Désormais, je ne cale plus, même avec la voiture de grand-mère qui pourtant est complètement foutue. Vous voyez, il y a cet aspect-là où j'arrive, hein, j'ai intégré, c'est-à-dire que ce qui était autre, au fond, est vraiment devenu mien. Et alors ça, pour le dire avec nos époux, il y a quelque chose, vous voyez, de la construction que deux êtres vivent, qui au bout d'un certain temps de leur histoire est précisément le couple lui-même. Il y a quelque chose qui existe au-delà d'eux, et en même temps entre eux, et par eux, et en eux, hein, qui est vraiment qu'il y a cette histoire commune, ce tissage commun, cette connaissance commune, qui est quelque chose, au fond, qui fait qu'ils ont intégré une part de l'autre. Il y a toujours des gens, quand on les prépare au mariage, qui me disent « Oui, mais au ciel, je suis très inquiet, parce que Jésus a dit qu'on prenait ni femme ni mari, qu'est-ce qui va m'arriver parce que vraiment, cunégonde et cybèle. » Et en réalité, je fais toujours la même réponse. Je dis, ben, oui, c'est vrai, Jésus dit, au ciel, on prend ni femme ni mari, on est comme des anges. Comme. On n'est pas des anges. Les humains ne sont pas des anges, et ils ne le seront pas même au ciel. Mais au fond, on ne sera plus dans l'engendrement des générations. Mais deux êtres qui se sont tissés l'un par l'autre toute une vie, mais au jour de la résurrection, si c'est bien eux qui ressuscitent, ils seront ces êtres profondément tissés, pas par n'importe qui. Parce que nous sommes, être une personne, c'est pas d'abord être un individu, c'est pas d'abord être un être autarcique, c'est être en relation avec tous les autres. Et je pense qu'il y a certainement, alors là c'est plus que le père Maxime qui vous parle, et pas l'Église catholique, mais je crois que c'est catholique quand même de le dire, sinon je ne le dirai pas, je crois qu'il y a une géographie du ciel. Je crois qu'il y aura quelque chose de cette mystérieuse géographie céleste de la louange, où en même temps, on ne sera pas tous tissés au point de départ des mêmes choses. Et pourtant, la connaissance sera infinie, la possibilité d'entrer en relation sera immense. Je continue, parce que, comme d'habitude... Voilà, et donc, du coup, Albert Chapin, il va nous aider à conclure. La jeunesse d'un acte libre nous force à dire « La liberté accède à soi à partir de ce qu'elle n'est pas ». Ça, c'est la première partie de ce qu'on a vu. « La liberté au principe et au terme de soi nous donne d'ajouter... La liberté, déjà de toujours présente à soi, procède de soi en excès de ce qu'elle est. » Vous voyez ? Alors, j'explique. Hein, elle était déjà toujours présente à elle-même, déjà dans l'intention. Elle procède d'elle-même dans le choix et dans la maîtrise qu'elle a d'elle-même, hein, en excès de ce qu'elle est. C'est-à-dire que, vous voyez, on est beaucoup plus cette fois-ci dans le modèle, hein, d'une source jaillissante, hein, du fait que... vraiment, on est dans le modèle trinitaire, si vous voulez. Nous sommes à l'image de Dieu. Donc, ce n'est pas anormal que le développement de notre liberté, son modèle, il soit beaucoup plus, corresponde beaucoup plus au mystère de la Trinité. Hein, le verbe « procéder », hein, ça vous fait penser à la procession de l'Esprit-Saint, hein, à la manière dont l'Esprit jaillit au cœur de la Trinité. Hein, la liberté qui est déjà présente elle-même, la source intérieure de la Trinité, la source surabondante, voilà, qui, dans une éternelle liberté, engendre le Fils. Hein, le Père engendre le Fils éternellement. Et en même temps, hein, il y a une espèce de retour à soi dans le mystère de l'Esprit qui intègre le Père et le Fils sans annuler ni l'un ni l'autre, mais en magnifiant les différences entre les personnes tout en les unissant. Vous voyez, cette liberté, le modèle de la Trinité, contrairement à ce qu'a pu penser Hegel, c'est d'abord le surgissement d'une surabondance et non pas un manque premier. Et donc, vous voyez, ça nous donne ça n'annule pas ce qu'on a dit sur le fait que la liberté pouvait être en manque d'elle-même. Mais ça donne autre chose. Ça donne, vous voyez, un certain donné de départ, un certain don à nous-mêmes, et au fond, qui nous oblige qui nous permet, plus exactement, ça ne nous oblige pas, ça nous permet, si vous voulez, de recevoir notre liberté dans l'action de grâce. C'est-à-dire, oui, ma liberté est finie, ma liberté n'est pas infinie. Mais pourtant, elle a en elle quelque chose d'infini, dès le départ. Parce qu'en fait, elle est déjà présente et capable de toutes ses potentialités, et capable de se porter vers elle, même si ça ne deviendra réel que dans une intégration qui ne sera, si je puis dire, que moi. Donc ça veut dire, si vous voulez, que reconnaître la liberté, non pas seulement comme une conquête, mais comme un don, c'est un don, au fond, qui implique qu'il y a eu un donateur. Je redis avec les mots de Chapelle plus exactement ce que je viens de vous dire. La forme de la liberté humaine est d'une part d'être strictement transi de négation, de finitude, voilà, je ne suis pas, j'ai toujours à accéder à moi-même, et d'autre part de posséder une infinité certaine, puisqu'autant au principe et au terme de son acte, la liberté ne devient jamais que ce qu'elle est. Donc j'ai fait une belle faute de frappe, elle est transi IE, hein, la liberté. Voilà. Mais vous voyez, il y a cette abondance, en fait, qui est présente dans la liberté. Hein, et c'est ça, on pourrait dire, qui fait que l'être, notre être, est un être, au fond, à la fois dans une dette, mais une dette heureuse, parce qu'au fond, nous avons été donnés à nous-mêmes dans une certaine limite, mais cette limite contient la possibilité de l'infini. Voyez. Donc on n'a pas à nier notre limite pour atteindre l'infini. Vous voyez l'enjeu spirituel, là, pour le coup, où je pense que nous avons quelque chose à dire à notre temps. Dans des limites, nous avons pourtant une capacité infinie à nous déterminer. Donc, d'un côté, vous voyez, il y a un modèle d'autogénèse et de dialectique négative, donc la liberté va être perçue sur le mode du manque. De l'autre, hein, un don infini à soi-même, et la liberté, du coup, va être perçue comme un mouvement de générosité. Et vous voyez, si ce topo de philosophie... toute simple, peut avoir un but, c'est aussi de dire quelle que soit l'issue, que l'issue soit la réussite ou que la réussite ou que l'issue soit l'échec, nous sommes quelque part appelés à prodiguer généreusement ce que nous sommes, à prodiguer notre liberté. Ce qui nous fait aller vers l'avant, c'est qu'il y a un don de départ. Donc à partir de là, je le donne comme générosité. Si vous voulez, pour les plus littéraires d'entre vous, aller chercher un exemple en littérature de ça, c'est le héros cornélien. Il y a la liberté cornélienne, elle est une sorte de jaillissement généreux, hein, de l'acte de bravoure, mais que ça marche comme le cygne, que ça marche pas dans certaines, ou que ça aboutisse au martyr comme dans Beaulieu. Donc il y a quelque chose là de notre liberté, vous voyez, dont je crois que c'est très libérant, hein, parce que, au fond, mais pour ça, il faut faire mémoire du don, si vous voulez. Les Thalas qui me connaissent vont reconnaître cette phrase que je cite tout le temps, hein, Thérèse d'Avila, hein, qui dit « Comment est-ce que nous nous éveillerons pour aimer si nous ne comprenons pas que nous avons reçu ?» Pour pouvoir donner, il faut que la coupe soit un peu pleine. Si je veux verser ma coupe, ben, il faut qu'il y ait quelque chose dedans. Et donc, si je ne fais jamais mémoire dans la prière, là je bascule vraiment pour le coup dans le côté spirituel, mais si jamais je ne fais jamais mémoire dans la prière du don que Dieu m'a fait de moi-même, et du fait que Dieu regarde ça comme un don qu'il aime profondément, qui est un don de bonté, comment est-ce qu'ensuite j'oserais prodiguer, comment est-ce que j'oserais faire l'offrande de mon humanité à ceux qui m'entourent? Comment est-ce que j'oserais dépasser ma timidité foncière que nous avons tous, même chez les plus extravertis, hein, pour finalement aller... finalement, offrir ce que j'ai à donner aux autres. Eh bien, voilà, Thérèse d'Avila le dit encore après, un peu plus loin, en disant comment tirera-t-il profit et comment dépensera-t-il celui qui ne comprend pas qu'il est riche ? Ben là, Thérèse d'Avila, en fait, a compris le nœud essentiel de la liberté, et Dieu sait que Thérèse d'Avila était une femme qui est un exemple de générosité et de liberté absolument saisissant. Elle a passé quand même toute sa vie à fonder des monastères tout en revenant à la prière, mais c'était une superbe attente. C'est quand même très impressionnant. Mais je crois que ça vient de cette source-là, la source de l'oraison notamment. Elle dit aussi, finalement, la différence entre les gens qui ne font pas oraison et les gens qui font oraison, c'est-à-dire qui prient en silence en se laissant aimer par Dieu, eh bien, c'est qu'il y en a, ils ne savent même plus en fait que Dieu en permanence les regarde et les aime. Et donc il faut qu'il y ait des moments de notre liberté où nous puissions recharger ce don premier. Vous voyez ? Donc là j'excède un peu ce que dit Chapelle, mais je pense qu'il ne me contredirait pas trop. Et maintenant je termine en disant, bon, là c'est plus un parallèle spirituel aussi, mais qui n'est pas non plus dans ce que dit Chapelle, mais je pense que c'est important de l'avoir en tête. Chapelle, c'est un jésuite, et donc c'est une pensée qui est très nourrie par les exercices spirituels. Les exercices spirituels, c'est quoi ? C'est des retraites où on va méditer selon 4 semaines, 4 semaines, et où on va, dans un premier temps, regarder son péché pour demander à se convertir, en fait, pour, quelque part, élaguer tout ce qui lie notre liberté. Donc on va commencer par se mettre dans une espèce de disponibilité, et ça va nous emmener de toute la première semaine jusqu'au tout début de la deuxième, où on va y avoir une méditation qui s'appelle l'appel du roi. Voilà. Et donc là, on va sentir cet appel d'un bien, et on va devoir se déterminer pour aller vers ce bien. Voilà. Et on va marcher avec lui, alors à partir de là, on va beaucoup méditer l'enfance et la vie publique, jusqu'à une méditation qu'on appelle l'élection, c'est-à-dire faire un choix. Donc c'est des retraites qui sont prévues, justement, selon ce mouvement de la liberté, pour qu'ensuite vous puissiez arriver devant ce moment où vous dites, tiens, mais voilà le choix que je veux poser. Et puis ensuite, on va entrer dans la maîtrise qui correspond dans la vie du Christ à la passion. Et alors à ce moment-là, on a médité. Donc on aura fait un choix. Moi, par exemple, j'ai fait les 30 jours, c'est les 30 jours d'exercice spirituel quand j'ai voulu, pendant mon année de propédeutique pour devenir prêtre. Donc voilà, j'ai médité mon péché. Voilà, c'est pas hyper effrayant, avec un accompagnateur qui me disait tu peux aussi fermer tes volets, ça t'aidera peut-être. Dans le loin, voilà. Et puis après, deuxième semaine, là, l'appel du roi, voilà, on y va et on va marcher avec Jésus, en fait. On va méditer son enfance, puis on va être avec lui dans sa vie publique. Et à chaque fois, on va se demander, mais où je suis par rapport à Jésus? Où est-ce que je suis? Et puis à la fin de cette deuxième semaine, on va faire un choix. Le choix, en l'occurrence, pour moi, c'était confirmer que je voulais devenir prêtre. Je me dis, ok, on y va. Et après, on ne nous dit plus rien. Et on nous dit, maintenant, tu traverses toute la passion avec le Christ. Et tu te demandes où tu es. Mais c'est très intéressant parce qu'en fait, on entre dans ce mouvement où le Christ, qui a voulu nous sauver de toute éternité, hein, mais qui s'est incarné pour cela, hein, qui est entré dans sa vie publique, qui a commencé par grandir, son enfance, sa croissance, qui a fait cette espèce d'élection. Hein, il y a un moment où, très mystérieusement, Jésus quand même choisit d'aller se faire baptiser par Jean-Baptiste. La Bible, l'Esprit Saint fond sur lui. Et à partir de là, il va annoncer, hein, mais pour entrer pleinement dans ce dessein final, Jésus va entrer, hein, dans cette servitude, il va devenir le serviteur. Et dans cette troisième semaine, il est celui, hein, qui, alors qu'il a dit à Gethsémani, s'il est possible que cette coupe s'écarte de moi, va continuer, hein, pour nous emmener jusqu'à la résurrection. Et donc la quatrième, la fruition, hein, le moment où on jouit de la liberté acquise, c'est ce mouvement de la résurrection. Donc dans la dernière semaine, on médite les scènes de la résurrection et on fait une méditation pour demander l'amour. Vous voyez. Mais c'est très très marquant, parce qu'au fond, notre liberté, c'est une liberté faite pour aimer. Et si on la pense à partir de l'amour, alors on ne la pensera pas à partir seulement du manque. L'amour manque aussi. Hein. Quand on aime l'être aimé, on voudrait être toujours avec lui. Ici-bas, l'amour n'est pas comblé. Donc il y a cette dimension de l'élan de l'amour, mais il y a aussi cette dimension permanente du don. L'amour est présent à lui-même à chacun de ces moments. Voilà, et je trouve cette phrase très belle. La liberté est soif qui désire davantage et source qui donne de la plénitude déjà vécue. Qui donne à partir, hein, de la plénitude déjà vécue. Elle est soif qui désire davantage. Elle est source qui donne de la plénitude déjà vécue. Voilà. Oui. Voilà, on a un petit temps de questions pour ceux qui... Voilà, s'il y en a qui veulent la publier, vraiment, je n'ai fait qu'au fond vous faire part d'un article que j'ai lu dans ma première année de séminaire. Je l'ai lu, j'ai senti qu'il y avait quelque chose, mais je n'ai rien compris. Et maintenant, là, je l'ai relu ce matin paisiblement pour préparer cette conférence, et ça m'applique que maintenant j'ai bien compris. Donc, je pense que je voulais vraiment décortiquer, mais si vous le voulez en entier, bien sûr, je pourrais vous essayer de, enfin, vous le scanner et puis vous l'envoyer. Oui, il avait.
C'est juste un petit article.
C'est un article, voilà. C'est un article d'une quinzaine de pages. Albert Chappelle est un théologien extrêmement puissant, mais qui avait la particularité d'être très très dense dans son langage et du coup parfois en fait beaucoup de gens du coup ont lu une dizaine de pages et ont rendu les armes. Il ne s'est pas entré dans la maîtrise. La médiation réelle a été beaucoup trop verticale. Oui.
Je me demande si la maîtrise, est-ce que c'est toujours nécessaire? Est-ce que c'est pas aussi être libre que de faire plusieurs petites tâches qui pour nous sont importantes aussi?
Alors, est-ce que la maîtrise est toujours nécessaire? Alors, on peut dire que dans une certaine mesure, elle n'est pas toujours douloureuse, la maîtrise. Et même, un des aspects de la liberté, si vous voulez, on pense souvent la liberté aussi comme une sorte d'alternative entre le bien et le mal. Si je suis libre, c'est parce qu'au fond, il y a un mal et un bien, je peux choisir entre le mal et le bien. C'est déjà quelque chose d'un peu faussé, parce qu'au premier jour, en tout cas c'est la foi chrétienne, nous avons été créés pour le bien. Il n'y avait pas le mal, on n'avait pas péché, on n'avait pas appelé bien ce qui est mal. Manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est pas qu'on aurait la connaissance, parce que la connaissance, Dieu a toujours voulu nous la donner. Ça, c'est des interprétations très prométhéennes qui rabattent le récit de la Genèse sur le récit de Prométhée. Mais dans la Bible, c'est très clair au fond qu'il y a une volonté de déploiement de l'humanité par Dieu. Il y a un intérêt de Dieu pour l'humanité. Et donc, la première liberté qui nous était donnée, et il suffit de penser, au départ historien de l'art, il suffit de penser à ce qu'on est capable de faire dans l'humanité quand on fait une réponse artistique au mystère du monde, sans même nécessairement être croyant. Il y a un déploiement de beauté dans la bonté qui est absolument phénoménal, qu'on n'a pas besoin du mal pour être libre. La vraie définition de la liberté, au fond, c'est la capacité à se porter aisément vers un bien. Vous voyez ? Mais nous, notre liberté, elle est brouillée. Et donc, plus on pose des actes, par exemple, je vais mettre un autre élément en jeu de la liberté. J'aimerais bien être courageux, mais je suis un trouillard. Je me dis, je vais accepter d'attendre ma cuisine sans allumer le couloir. Petite victoire personnelle, qui ne nécessite pas un temps de maîtrise extrême. Je vais arriver à allumer ma cuisine soulagée. Vous voyez, mais de petite fois en petite fois, ce qui est intéressant, c'est Maxime le Confesseur, mon saint patron, grand théologien que vous entendrez souvent citer, parce que c'est un des plus grands théologiens de l'époque patristique, qui déploie toute une pensée de ce qu'il va appeler l'exis, donc il va y avoir la puissance, la dunamis, l'energeia, donc avec une philosophie assez aristotélicienne derrière, donc le passage de la puissance à l'acte. Mais il va ajouter ce qu'on appelle l'exis, qui se traduit en latin par virtus et en français par vertu. En fait, tous les petits actes que je pose vont au fond créer en moi des dispositions acquises. Si je fais plein de petits actes mauvais, par exemple, je n'ai rien contre les fumeurs, mais ils feraient mieux d'arrêter. Mais en fait, ils ont commencé un jour à fumer. Donc, je suis désolé pour les fumeurs parmi vous. Voilà, j'en fume une, c'est bon. Une deuxième, la troisième, on commence à avoir un peu plus envie, la quatrième, etc. Et à la fin, ça devient un vice, peut-être pas un vice massif, mais si vous voulez, moi je préfère prendre un exemple un peu anodin. Mais au fond, plus je fais le mal, plus je vais avoir de propension au mal, en fait. Plus je vais être, vous voyez, emprisonné dans le mal que je fais. Mais plus je fais le bien, plus je vais réussir, en fait, à déployer, à faire que ce moment de la maîtrise, et vous voyez, dans le don de soi-même, ça s'apprend, le don de soi-même. Et en fait, il y a quand même une plus grande facilité au fil du temps. Alors, le don de soi-même, il nous est aussi arraché. Quand je pense à des parents, je peux toujours faire des grands discours sur le don de soi-même, mais moi, je ne me lève pas à 3h du matin, à 5h du matin, après m'être levé aussi à 10h, à 11h, parce que le bébé a besoin de téter, et il y en a un qui passe le bébé à l'autre, et dit, c'est ton tour. Vous voyez, le don de soi, les parents, ils n'ont pas le choix, en fait. Ils n'ont pas le choix. Et en même temps, c'est pour ça aussi, parfois, c'est quand même très très dur pour eux. Ça nous est parfois pris, cette dimension du don de soi. Mais au fond, il peut devenir plus facile. Et quand on a un vice, c'est pour ça qu'un saint François de Sales va nous dire, si vous avez des vices, eh bien, exercez-vous dans des domaines relativement à exercer la vertu contraire. Essayez de déployer autre chose. Et surtout dans les moments où vous n'êtes pas trop attiré par votre vice. Mais du coup, posez plein de petits actes de vertu dans l'autre sens, parce qu'au fond, notre liberté, notre intériorité, elle est en partie sculptée par nos actes. Vous voyez ? Donc il y a à la fois, les actes ont une dimension ponctuelle, mais au fond, il y a toujours on pourrait dire une longue traînée de nos actes en nous-mêmes qu'on pourrait appeler les vices et les vertus. Et ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup oublié, en fait, dans l'enseignement chrétien. Bon, je trouve qu'on enseigne beaucoup trop peu sur la question des vertus, parce qu'en fait, elles sont des... Et alors, en plus, c'est, au départ, c'est pas seulement chrétien. Hein. Enfin, pour tous ceux qui ont lu Aristote, qui lisent, en fait, toutes les listes de vertus, de ce qu'elles sont, etc. Au fond, déjà, en fait, apprendre à les connaître, c'est aussi apprendre à pouvoir désirer les déployer. Oui, Marc.
Moi, j'ai une question, parce que comment vous diriez que cette définition, ou en tout cas cette interprétation de la liberté chrétienne, peut résonner avec, moi, ce que j'ai souvent entendu plutôt sur la liberté, que ce serait la joie d'une servitude volontaire. Ou, c'est-à-dire que c'est l'abandon d'une entièreté de potentialité, et de se dire, bah, je choisis un domaine, je choisis quelqu'un à servir, et en fait, c'est ça qui me rend libre.
Ouais, en fait, ça, c'est pas trop en contradiction.
Non, non, mais c'est pour ça, c'est...
Ouais, ouais.
C'était plus... Enfin, j'ai souvent entendu surtout ce côté-là de la question.
Moi, là où je nuancerais un petit peu, c'est que... Enfin, c'est pour ça que, je sais plus ce que j'avais mis au tout début, dans une des premières diapos, mais j'avais mis autre chose que servitude, voilà. J'aime bien aussi le mot de fidélité, en fait, parce que la servitude n'est pas que... la servitude, c'est quand même un mot... on va être quand même dans la zone du négatif. Or, en fait, il y a toujours aussi une dimension positive à ce moment-là de la liberté. C'est-à-dire qu'au fond, ma fidélité s'exerce, et au fond, il y a quelque chose de très beau, et la joie peut être présente dans ce moment-là. Moi, je suis en période de rentrée, je n'ai pas une seconde à moi, donc là, je suis bien dans une phase où le don m'est arraché, et tant mieux, parce que sinon les prêtres, on peut devenir des vieux garçons. Mais je suis très content. Voilà. Quand les gens me demandent ça va, je dis oui, je me prends la marche, mais je suis heureux, quoi. Voilà. Vous voyez, c'est des. En fait, le don de soi aussi, il faut qu'on se dise. Le don de soi, est-ce qui vraiment nous rendra heureux? En fait, comme on est fait à l'image d'un Dieu qui est Trinité, ou qui est don de lui-même intérieurement, c'est au fond de nous donner aussi nous-mêmes qui nous rendra heureux, de nous donner aux autres, en fait. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de recevoir, comme je l'ai dit avant. Hein. Donc en fait, ce qui est, enfin, l'idéal, c'est que si tout le monde cherche à donner ce qu'il est, ben, ça fait un très bel ensemble, et où chacun peut recevoir. Et, vous voyez, des lieux en fait, qui ont produit beaucoup de fruits, avec toujours, vous voyez, l'humanité, on a notre côté blessé, donc il y a toujours une ambiguïté qui va revenir. Et un monastère, un couvent monial, c'est des gens qui ont décidé de suivre Dieu ensemble en se donnant eux-mêmes et en donnant leur vie. Ben, immanquablement, ça produit des fruits. Bon, déjà, en France, ça a produit beaucoup de bons vins. C'est quand même à eux qu'on le doit. Hein. Mais avec l'ambiguïté, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait beaucoup de bons fruits, beaucoup de choses, etc., et que tout d'un coup, il y a du bien, il y a toujours ce mouvement qui risque de s'assagir. Hein. L'an dernier, les talars, on était au Bec et loin. C'est ça, hein. Mmh. Ouais. Et je suis toujours fasciné dans ces abbayes 18e, hautes avec 8 mètres de plafond, etc. Je me dis, bon, des moines ont vécu là, mais en fait, ils ont pu vivre là parce qu'il y avait toute une série de moines convers autour qui... Alors, ça ne veut pas dire que chacun ne cherchait pas à faire son salut, mais vous voyez, il peut y avoir des... C'est pour ça qu'à l'intérieur de chaque ordre monastique, il y a tout le temps des réformes pour revenir, en fait, à la pureté évangélique originelle, pour essayer de revenir à l'élan premier. Et donc, ce don qu'on fait nous-mêmes, en fait, il produit du bien et des biens. Erwan.
C'est dans les deux facettes de la liberté que vous donnez, en fin de compte, je trouve que ce qui est distingue, c'est que le manque est ressenti lorsque la liberté ne se regarde pas elle-même et qu'elle regarde les conditions de son exercice et les objets sur lesquels elle s'exerce, qui est le manque continuel, et que son infinité se ressent dans la mesure où elle se regarde elle-même agir. Et que, du coup, la grandeur, enfin, ce qui apparaît comme la grandeur de la liberté, c'est un peu son propre regard sur elle-même, dans une action finique, mais du coup, les biens et les conditions de finitude dans lesquelles nous agissons, elle me semble être achetée par Albert Chapelle que comme lieu d'exercice d'une liberté qui se regarde et non pas comme ayant une valeur intrinsèque.
Ok. Alors, si je retraduis, mais ça va pas être facile. Oui, en gros, est-ce que Albert Chappell, en fait, ne sauve pas la liberté simplement par un regard où elle prend conscience qu'elle est liberté, même au milieu des conditions qui nous sont données, mais au fond, les conditions, elles restent pour une bonne part négatives. C'est un peu ça que tu dis.
Oui.
Voilà. Alors, peut-être qu'un point qui me paraît peut-être ouvrir un chemin, mais je ne prétends pas répondre tout de suite, en plus moi j'ai l'esprit de l'escalier, c'est que je ne dirais pas qu'au fond la liberté, elle se recharge en se regardant elle-même, mais au fond parce que elle se reçoit à nouveau. Voilà. C'est-à-dire qu'au fond, en fait, soit au départ il y a du manque, nous sommes le fruit du hasard, et comme le dit le livre de la sagesse, hein, nous sommes nés du hasard et un jour personne ne saura qui nous avons été. Ça c'est les paroles, si vous voulez lire les paroles de ce qui est qualifié comme l'impie, hein, par le livre de la sagesse, mais en fait qui veut dire aussi la condition des gens qui ont perdu Dieu, hein. Dans ces cas-là je lis les choses sur le mode du monde, mais si au fond je regarde ma liberté comme reçue, en fait on a deux options, en fait, soit on est du hasard, soit on est né de l'amour. Si je suis né de l'amour, alors au fond, je me reçois en fait comme en partie en dette, et à partir de là, ce qui m'est donné autour de moi n'est pas simplement des conditions de finitude, mais en fait ça va être le lieu, ma finitude même va être le lieu en fait d'une richesse partagée. C'est-à-dire qu'au fond, c'est parce que je ne suis que cette personne-là que je peux voir la merveille qu'un autre soi, cet autre bien, et que je peux vouloir le désirer. C'est-à-dire que soit on est Dieu, mais Dieu pouvait pas de toute façon faire. Dieu pouvait pas créer Dieu. Enfin, Dieu a créé. Voilà, ça correspond pas à la définition de Dieu. Bref, enfin, il engendre le Fils, comme le Père engendre le Fils dans la Trinité. Mais bon, le propre de Dieu, c'est d'être un et trois ensemble. Voilà, c'est le mystère de la Trinité. Et ça veut dire qu'au fond, quand Dieu crée le monde, en fait, il conjoint autant de finitudes individuelles, mais qui sont appelées à être toujours plus davantage personnelles, personnalisées, c'est-à-dire beaucoup plus tissées du lien qu'elles ont avec tous les autres, en vue, au fond, de ce qu'est la communion finale. En fait. C'est pour ça que on commence en nous disant ce qu'on peut manger dans la Genèse. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Le commandement est positif en premier. Mais de l'arbre, voilà, tu ne pourras pas manger, etc. En tout cas, ça reste hyper complexe. Mais bon, bref, on commence par, on donne les règles de la nourriture. Mais en fait, après, quand on donne les images de la fin, c'est toujours le festin qu'on décrit. C'est d'ailleurs pour ça que les talas, nous commençons toujours aussi par un festin. Vous voyez ? Non, mais je dis ça, c'est un peu une boutade, mais c'est très fort, en fait. C'est-à-dire que les réalités humaines les plus simples, pour nous, sont quand même colorés par une dimension spirituelle profonde. C'est-à-dire manger ensemble, prendre le temps d'un repas, vivre la joie de nos chers princes qui nous ont préparé quelque chose d'aussi bon que possible à manger, et c'était le cas ce soir. Vous voyez, il y a quelque chose là où la Bible va toujours voir une anticipation de la joie finale. Un festin de viande grasse et de vin capit, dit le prophète Isaïe. Sounds like a plan.
Yes. C'est une question un peu plus.
Très bien.
Non, mais vraiment, elle est vraiment pas. Mais en fait, c'est parce que je pensais pendant toute votre conférence à Kierkegaard, qui est un autre philosophe qui est aussi chrétien, même s'il est protestant.
Oui, oui. Merci Inès pour cette parole de Kimi.
À l'infini des dieux est tellement
enfin, quelque chose presque de désespérant, mais si bien qu'en fait on ne peut se réfugier derrière aucune espèce de devenir soi-même ou de devenir quelque chose. Enfin, il y a sans arrêt une forme de regret un peu dialectique qui rattrape l'individu. Et en fait, la question que je me pose, c'est. Enfin, manifestement, Kierkegaard est un philosophe parmi d'autres, et c'est parmi d'autres, mais c'est un écueil spirituel qui est sans doute réel. Et enfin, dans quelle mesure est-ce que c'est une chose qui peut être, enfin, comment dire, qui peut être vécue et qui peut faire partie de ce que Dieu peut demander à quelqu'un de vivre.
Oui.
Est-ce que c'est un symptôme de quelque chose de dissonant en fait?
Voilà. Alors, du coup, je retraduis la question. Merci. C'est une très bonne question de fait. Au fond, est-ce que le alors, tu me diras si je déforme, mais au fond, est-ce qu'on peut éprouver quelque chose de la bonté de notre liberté pour aller vers Dieu? Ou est-ce qu'au fond, si Dieu élargit notre liberté, si c'est Dieu qui l'élargit, on la pensera, on la vivra aussi comme quelque chose qui pourra être écartelant, voire chez Kierkegaard, au fond, cette liberté est quand même toujours vécue, si c'est la rencontre de Dieu, dans quelque chose qui vient écarteler les possibles. Ça, c'est vrai que dans la Bible... rencontrer Dieu, ça peut être, il y a un côté beau, mais c'est quand même un côté inconfortable. Donc ça, vous pouvez aller regarder des lieux pour ça, c'est la vocation des prophètes, vocation d'Isaïe, je vis Dieu, j'étais dans le temple, j'ai vu Dieu, son manteau descendait, etc. Les pans de son manteau descendaient dans le temple, et c'est quoi le réflexe d'Isaïe? Je suis un homme aux lèvres impures, au milieu d'un peuple impur, etc. Donc cette impression, vous voyez, mais... dans la Bible, c'est ça qui est quand même très marquant, un ange est envoyé, touche les lèvres d'Isaïe, et lui dit « Sois purifié ». Et ensuite, « Qui enverrai-je? Me voici, envoie-moi ». Donc, si vous voulez, c'est vrai que... Et alors, si je transpose ça aussi un peu en littérature, même si c'est, je ne suis pas sûr que Bernanos soit Kierkegaardien, mais chez Bernanos, en tout cas, la sainteté, ça n'a pas l'air rigolo au Moyen-Âge. Ça ne donne pas trop envie d'y aller. Je pense qu'il y a quand même quelque chose de ça parfois dans notre...